Mettre ces moments, on est reconnaissant d'être là ensemble. On te prie de les bénir, s'il te plaît, de bénir ta parole. Seigneur, conduis-moi pour partager ces choses. Et surtout, Seigneur, que ta parole demeure dans nos cœurs, qu'on la chérisse, qu'on la serre dans notre cœur pour marcher dans tes voies et renouvelle notre foi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Est-ce que vous étiez tous là la dernière fois ?
Non.
Non. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on avait parlé la dernière fois ?
Stress.
Le stress. Stress. On parlait du stress.
J'avais pas terminé.
Ah non, bah, on est loin d'avoir terminé. C'est
stressant ce que tu dis. Hein.
Désolé. Mais on va voir comment justement être moins stressé. Est-ce que vous vous souvenez, pourquoi est-ce que vous pouvez vous souvenir de la dernière fois, pour ceux qui étaient là?
On a parlé du stress intérieur, qui peut donner des désagréments au cœur, dans notre cœur. On a parlé du stress spirituellement, c'est quand on est chargé, fatigué. On a lu le psaume 32:3-5.
Ouais. Notamment, mais pas que.
Notamment, oui.
Ah bah non, je l'ai pas dit, non. On a parlé des douleurs, des inquiétudes, des pensées, des dommages, non, des découragements, la tristesse, harcèlement, fantasme, obsession. Le guide, le cœur de l'homme ne s'arrête jamais. On a lu aussi Jean 14, verset 27, c'est la paix.
Je vous donne la paix.
Je donne la paix.
Ouais. Aussi comment le monde lui fait pour enlever le stress, mm-hmm. alors que nous en tant que croyants c'est différent.
Oui.
On a parlé aussi des bruits, c'est dans le corps, c'est qu'on est en train de. Quand, par exemple, on prie, c'est souvent qu'il y a des choses qui arrivent et puis des images qui nous empêchent de continuer à prier.
À penser, ouais.
Parce que qu'est-ce que c'est le stress en fait?
Comment?
Qu'est-ce que c'est le stress? Comment vous définiriez le stress?
C'est un état naturel, je crois, qui vient de. Je ne me rappelle plus.
C'est un mélange d'inquiétude, d'angoisse.
C'est l'angoisse,
la crainte, la peur. La peur.
Ouais.
Moi, je dirais l'incapacité à gérer trop plein d'informations.
Incapacité à gérer le trop plein d'informations.
Mmh. Qui entraîne tout ça, inquiétude, peur.
Ouais. Est-ce que vous vous souvenez à quoi on avait comparé le stress?
Du bruit.
Ah oui, du bruit, c'est ça.
Du bruit, mais dans notre âme.
Oui, ça.
Pas un bruit physique, mais un bruit spirituel. Et ce bruit, il est constitué. Alors, dans le monde physique, le bruit, c'est du son, ce sont des ondes. Et dans notre être intérieur, ce sont des vagues de pensées. De pensées, majoritairement. Qui vont provoquer une agitation, une inquiétude, une angoisse, un abattement, un accablement. On avait vu qu'il y avait des répercussions sur le corps physique. Hein. L'état intérieur influe sur le corps physique. Et je crois que c'est pour ça que le psaume 32, verset 3 notamment, et 4, disait « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Donc on voit, tant qu'il n'y a pas eu ce rapprochement avec Dieu, il y a des symptômes physiques. Ça me brûle à l'intérieur. Parce que la main de Dieu s'apesantit sur lui. Plus de vigueur. La vigueur est transformée en sécheresse. Et par contre, au verset 5, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché », etc., etc. Alors, le stress ne vient pas nécessairement du péché. Je crois que s'il n'y avait pas de péché dans le monde, il n'y aurait pas de stress. Le stress, c'est une mauvaise gestion, comme disait Sergio, des informations, de la quantité de choses à faire, du flot de pensées ininterrompu. On avait vu qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. S'il y avait un bouton « off », ça se saurait, des fois on aimerait bien, mais ça ne marche pas. Et on avait vu notamment Matthieu 11, versets 28 à 30.
Oui.
Qu'est-ce que ça dit, Matthieu 11, versets 28 à 30?
Venez à moi.
Oui.
Jonathan,
tu l'as trouvé, je suis sûr.
Oui.
Vas-y, tu veux le lire?
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.
Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait fait avec ce verset ? On l'avait inversé,
c'est ça, oui.
Vous vous souvenez ?
Ah oui.
Refusez de venir à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Et Matthieu 11, versets 28 à 30.
Je vais demeurer.
Demeurer. Refusez de demeurer en moi, oui. Et je vous refuserai la paix. Je vous refuserai le repos. Refusez d'être semblable à moi. Et qu'est-ce qui va se passer ?
Vous serez fatigué et chargé.
Et vous serez fatigué et chargé.
Tu as pris les vestes.
Oui. Si on met à l'inverse ce que ce verset dit, si vous refusez de venir à Jésus, bah vous serez fatigué, vous serez chargé, vous serez stressé. Il y aura du bruit dans votre âme. Si vous refusez de vous conformer à ce que Jésus dit, c'est exactement ce qui va se passer.
Est-ce que le stress peut palpiter le cœur ?
Bien sûr.
Ben oui.
Bien sûr. Je connais des personnes qui, lorsqu'elles sont stressées, filent aux toilettes. Pourquoi ? Parce que le stress produit des problèmes gastriques, accélère la digestion, parfois cardiaque. Bien sûr. Quand on a peur, qu'est-ce qui se passe ? Le corps est...
dans l'ébullition, quoi.
Ouais. Le cœur va s'accélérer. Il va produire aussi des... Comment ça s'appelle ?
La dopamine.
La dopamine ? De l'adrénaline ? Voilà. Donc le corps agit en fonction de ce que nous ressentons. Alors pas exclusivement. Il y a des maladies physiques qui ne sont pas du tout liées à notre état intérieur. Mais il y a beaucoup de nos maladies physiques qui sont liées à notre état intérieur. Parce qu'on est stressé, parce qu'on ne gère pas convenablement nos pensées et notre activité, notre vie. Alors, en faisant toute cette étude, qui, si le Seigneur permet, durera plusieurs réunions d'hommes, on ne va pas s'arrêter aujourd'hui, on verra comment gérer son temps, peut-être même son alimentation pour glorifier le Seigneur, parce que tout ça, le but c'est quoi ? C'est juste arrêter d'être stressé ? Non. Le but c'est de glorifier Dieu. Et être stressé, c'est pas ça qui glorifie Dieu. Est-ce que vous imaginez le Seigneur Jésus stressé ?
Non, il dormait sur la barque.
Ouais. Il dormait sur la barque. Précisément, les disciples étaient carrément stressés. Il y a eu un moment, par contre, où
il a été stressé. Oui, c'est quand il a pleuré, je pensais.
Dans le jardin.
Quand il a pleuré, ouais, qu'il savait ce qu'il attendait.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'est là où il savait ce qu'il allait... à affronter, que c'était en fait tout ce qui n'est pas Dieu, c'était le péché. Donc il savait c'était.
Ouais, le stress vient
du péché.
Ouais. Moi je me suis toujours posé la question, est-ce que réellement il dormait?
Oui, la Bible le
dit en tout cas.
Sur ses deux oreilles.
Il est Dieu, il dort. Je sais pas.
Mais il dormait, il avait un corps qui fatiguait. Dans Jean 4, on le voit, il était assis au bord du puits, fatigué par la marche. Jusqu'à ce que la Samaritaine arrive. Il est fatigué parce qu'il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Ça nous dépasse, hein, cette union des deux natures. Mais tout en étant Dieu, vous êtes fatigué. Alors, on va ce matin essayer de démasquer la source du bruit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Démasquer la source du bruit, c'est... D'où vient le problème principal du bruit dans nos âmes ? Où se situe le problème principal lorsque nous sommes stressés ? On va voir ça. Et on va d'abord ouvrir notre Bible dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 et 3. 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 et 3. Est-ce que quelqu'un vous lire ces deux versets, 2 et 3.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
Merci. Je souligne dans ces deux versets deux choses. La grâce et la paix sont multipliées de quelle manière ?
La connaissance de Dieu.
Connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de quoi ?
La connaissance.
La connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, là où nous allons nous arrêter un petit peu ce matin, étudier, c'est connaître Dieu. La grâce et la paix viennent de la connaissance de Dieu. Notre vie pieuse, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour mener une vie pieuse en le connaissant. Le moyen de mener une vie pieuse, c'est de le connaître lui. Alors, avant d'entrer dans le détail, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que la vérité ?
C'est Jésus.
Amen. Oui, mais encore.
Une qualité sincère.
Oui.
Ouais.
C'est l'absence de mensonge.
L'absence de mensonge.
Juste.
La justice, il est juste, oui. Bibliquement parlant. Qu'est-ce que la vérité ?
La parole.
La parole, oui. C'est ce que l'homme sait être vrai, la vérité, qui correspond à la réalité. Si on devait donner une définition, la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Gardez ça dans un coin de votre tête, pas que dans un coin d'ailleurs. La vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. On va noter que rien ne peut être vrai et faux en même temps. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, c'est faux. On ne peut pas être les deux en même temps. Et si nous devons démasquer la source du bruit, la source du stress, c'est qu'il y a souvent, on ne va pas dire tout le temps, un problème avec la vérité. Notre perception de la réalité n'est pas bonne. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Qu'est-ce que c'est qu'être incrédule ?
Ne pas croire.
Ne pas croire. Ouais.
Manquer de foi, manquer de certitude, manquer de conviction.
Manquer de foi, de certitude et de conviction.
Qui n'obéissent pas aussi.
Ça entraîne une désobéissance, oui. L'incrédulité, c'est rejeter ce que Dieu dit être vrai. Dieu dit quelque chose, Dieu dit toujours la vérité. Lorsque je ne crois pas ce que Dieu dit, mais je suis incrédule. C'est pour ça que je dis que le stress a quelque chose à voir avec la vérité, le fait de ne pas croire la vérité, ou une vision déformée de la vérité, de la réalité, et que c'est de l'incrédulité. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tout le monde croit toujours en quelqu'un ou en quelque chose ?
Oui.
Tout le monde à la fois. Vous êtes d'accord pour dire ça ?
Oui.
Tout le monde, tout le monde.
Oui, tout le monde.
Tout le monde.
Chaque être humain, à la fois.
Oui.
Tout le monde croit quelque chose ou croit quelqu'un. Il dit, je ne crois pas en Dieu, mais tu crois en quoi ? Je crois en moi. Je crois en l'humanité. Je crois en une puissance supérieure. On ne peut pas ne croire en rien. Parce que c'est déjà croire en quelque chose. Et lorsqu'on rejette Dieu et la vérité que Dieu a établie, c'est un problème majeur et c'est là, en réalité, la source du stress. Si nous sommes stressés, c'est parce que nous rejetons ce que Dieu dit. Alors, je vais détailler un petit peu ça parce que dit comme ça, on ne voit peut-être pas exactement où est le rapport. Pourquoi est-ce que je suis stressé ? Je n'ai pas du tout l'impression, moi, de rejeter ce que Dieu dit. Et pourtant, je suis stressé. Regardez déjà. Pardon. Oui.
Et je crois que la maladie peut entraîner le stress aussi.
La maladie peut aussi entraîner le stress. Oui.
Et ça n'a pas de... parce que ce que Dieu, on prend tout ce que Dieu nous donne, on le prend. Mais par exemple, chez moi, le stress, ça sera plutôt la maladie que...
Ah. En quoi la maladie est-elle stressante?
Par la douleur, le lendemain, ce qui va y avoir le lendemain, etc.
Incertitude.
Même si on met toute notre vie entre on a notre vie entre les mains de Dieu,
oui.
On sait que c'est lui qui garde nos pensées, oui. Qui garde notre corps, mais on a toujours ce poids. Je sais que moi, c'est maladie et malheureusement était éternelle. Mm-hmm. Donc en plus, il y a des choses qui arrivent, comme Christine qui veut des choses en plus, oui. Et du stress en plus, etc.
Oui. Eh bien, justement, dans des cas comme celui-ci, où les circonstances sont extérieures, il y a des tas de... Ça pourrait nous parler à tous. Des choses qu'on ne contrôle pas. La maladie, tu ne la contrôles pas, ça amène de l'incertitude pour le lendemain.
C'est ça.
Et un certain nombre de désagréments. On parlait tout à l'heure, un arbre qui tombe dans le jardin, qui endommage quelque chose chez moi, j'y suis pour rien, c'est pas un péché, proprement parlé, pourtant ça va me provoquer du stress. Est-ce qu'il est possible d'éviter ce stress-là, celui provoqué par la maladie, et celui provoqué par l'arbre qui tombe? Est-ce qu'il est possible d'éviter le stress de la peur du lendemain? Je crois que oui, et en réalité, lorsque nous sommes stressés, c'est parce que nous peinons à nous imprégner de la vérité que Dieu donne dans sa parole. Et qu'il y a des vérités que nous avons de la peine à saisir. Et en réalité, c'est de l'incrédulité.
À croire. Hmm? À croire.
Hein? Croire, oui.
Oui, à croire. Les vérités qu'on a de la peine à
croire. On les sait vraies.
On les sait, mais...
Il y a une différence entre savoir et connaître au sens biblique du terme. Il dit la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une connaissance qui est là. Je me suis rendu compte, je vous donne un tout petit exemple. Il y a des années, j'ai dû aider une sœur qui était en grande détresse, en grande souffrance intérieure. Et je me suis rendu compte, et je ne suis pas le seul, qu'en essayant de l'aider, j'avais toujours la même réponse. Oui, mais je sais ça. Je me servais de la parole. Pour essayer de lui apporter. Oui, mais je sais ça, je sais ça, je sais ça. Et rien ne changeait à sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle savait, mais elle ne savait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui entendront, elle savait avec la tête, elle ne savait pas avec le cœur. Et là, il est question de connaître, connaissance de Dieu. On peut avoir une connaissance intellectuelle importante de Dieu et ne pas connaître avec le cœur. En tant que pasteur, moi, je suis toujours frappé par le danger que je cours, parce que je nourris ma vie d'études bibliques, et ma tête peut gonfler. Mais est-ce que je connais vraiment Dieu personnellement avec le cœur? C'est pas parce que je connais des passages entiers de la parole et les références qui vont avec, que je connais Dieu. Et non. Et il y a cette différence, il faut que ces paroles de Dieu elles fassent une différence dans ma vie. Alors, on doit travailler à chercher ce qui est vrai selon Dieu et à rejeter, mais de manière catégorique, absolue, tout ce qui dévie de la vérité. Parce que sinon, on adhère à un mensonge. Si c'est plus de la vérité, c'est du mensonge. Il peut pas être, ça peut pas être un peu vrai et un peu faux. C'est faux ou c'est vrai. Regardez, s'il vous plaît, dans Romains 1. Romains chapitre 1, salut, venez en réinstaller vous. Le verset 21, Romains 1, verset 21.
Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et de lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres.
Merci. Ce passage, il nous parle de personnes qui ont une connaissance de Dieu et qui refusent d'ajouter foi à cette connaissance de Dieu, de glorifier Dieu, parce que la connaissance que l'on peut avoir de Dieu est forcément glorieuse, parce qu'on connaît quelque chose à propos de Dieu, c'est glorieux. Et ces personnes-là, elles ne le glorifient pas comme Dieu. Elles ne lui rendent pas grâce. Ça veut dire que l'excellence de Dieu est ternie à leurs yeux. Dans les pensées de ces gens-là, si vous regardez le verset 23, il est écrit qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors, dans le contexte, là, il est question de gens qui, ayant connu la vérité au sujet de Dieu, se sont détournés vers l'idolâtrie et sont tombés dans le paganisme, les cultes païens. Mais ça, on le fait nous aussi. On le fait nous aussi lorsque, finalement, la gloire de Dieu est ternie à nos yeux, que ce Dieu excellent qui a fait des promesses merveilleuses nous paraît fade, incroyable au sens propre du terme, qu'on ne peut pas croire, et qu'on va remplacer ce Dieu glorieux par quoi ? L'homme corruptible, le secours des hommes, et le reste de la création. Tout à l'heure, Jonathan, je crois, rappelait qu'on avait vu la dernière fois que le monde cherche à calmer le stress d'une certaine manière et que nous, on est appelés à le calmer d'une autre manière. Le monde fonctionne comme ça, comme on vient de le voir. Il va chercher du secours dans l'homme, dans ses propres forces ou dans les forces des autres, et puis dans le reste de la création. Mais il n'y a pas de Dieu dans ça. Et parfois, nous, en fait, on n'a pas Dieu non plus. Hein ? On vit comme des chrétiens athées. Oui, oui, Dieu est là, mais comme si Dieu n'était pas là. Nos actions démentent ce qu'on dit croire. Et finalement, à nos yeux, est-ce que quand on est dans la tourmente, quand il y a une situation inquiétante, de l'incertitude, de la crainte, comment est Dieu à nos yeux ? Lorsqu'on est stressé, ben Dieu est petit. En réalité, ça montre qu'on a l'image d'un Dieu qui est petit, d'un Dieu qui n'est pas puissant. Parce que si on croyait véritablement que Dieu est grand, qu'il est tout puissant, que toutes choses sont en sa main, est-ce qu'on serait stressé ? Non, parce qu'en réalité, la foi, elle s'empare de ces choses et elle chasse le doute. J'ai vécu cette semaine des circonstances stressante. Et vraiment, j'ai éprouvé du stress, et je peux dire de l'agitation, j'étais irritable. Et à un moment, le Seigneur m'a rappelé, mais ouh, Baptiste, je suis là. C'est la cafetière, pas peur. Baptiste, je suis là. Et j'ai cherché le Seigneur. Je l'ai cherché vraiment. Seigneur, qu'est-ce que tu as dans cette situation ? Pour moi, pour m'aider. Et le Seigneur m'a rappelé qui il est, que rien n'arrive sans qu'il le permette, donc il sera avec moi pour traverser cette situation d'incertitude et d'angoisse. L'angoisse, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie. L'incertitude est toujours là, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va advenir. Mais est-ce que c'est un sujet d'inquiétude ? Plus du tout. Plus du tout, parce que, quoi qu'il arrive, je sais une chose, et je ne le sais pas que dans ma tête, mais dans mon cœur, Dieu est là. Dieu est là, et il sera là, parce que je le crois. Nous avons en nous un cœur qui est pécheur. Même si nous sommes régénérés, nous avons un cœur qui ne peut plus pécher, mais nous avons toujours le cœur pécheur, irrégénéré, incurable, qui est toujours là et qui va lutter. Et la tentation du cœur pécheur, c'est quoi ? Pas de Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas tel qu'il le dit. Et si vous regardez au verset 25, Romains 1, 25, Il est question de ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La tentation du cœur pécheur, c'est toujours de changer la vérité de Dieu en un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous voyez, ça c'est profondément ancré, c'est à la racine du cœur pécheur. Dieu a-t-il réellement dit que ? Mais le cœur régénéré ne dit pas Dieu a-t-il réellement dit ? Il dit Dieu a dit maintenant, j'attends la réponse, j'attends l'accomplissement de la promesse. Alors, on va voir quelques vérités qui vont apporter de la stabilité parce qu'il y a du bruit dans nos âmes. De la même manière que Dieu m'a dit, hey, « Hé, Baptiste, où ? Je suis là. » Quelles pensées sont de nature à apporter du calme, de la paix à mon âme ?
Une petite question pour le verset 25. Là.
Oui.
Ou eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur. Est-ce que ces gens-là, ils sont stressés? Parce que là, c'est volontaire.
Oui.
C'est volontaire, c'est-à-dire que apparemment, ils ne sont pas stressés. Ils savent ce qu'ils font.
Ah, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas stressés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas stressés.
Ouais.
Ils savent certainement, au moins dans une certaine mesure, ce qu'ils font. Je peux vous dire, ce qui est décrit dans ce texte, c'est ma vie. Le début de ma vie. C'est exactement, j'ai eu une connaissance, une vraie révélation. Le Seigneur s'est vraiment révélé à moi quand j'étais enfant. Et je l'ai rejeté, vraiment rejeté. Et mon cœur a été plongé dans les ténèbres. Et je suis tombé dans l'idolâtrie, je suis tombé dans l'occultisme. Ah. Mais donc je savais que ce que je faisais en rejetant Dieu, après est-ce que j'avais connaissance de tout ce que ça impliquait ? Pas à ce moment-là. Non. Mais n'empêche que Dieu, ce que Dieu annonce dans sa parole m'est véritablement arrivé. Est-ce que j'ai expérimenté du stress dans ma vie ? Ah ben, une vie sans Dieu, ça peut être qu'une vie stressée.
Parce que je ne sais pas si je vois bien. Il y a mon beau-frère qui arrive souvent à la maison, qui est évêque catholique, il est évêque. Je ne le vois jamais stressé. Il est tranquille, il se voit chef de l'église catholique, donc apparemment je ne le vois pas stressé. Est-ce qu'il est conscient qu'il est dans le mauvais chemin ? C'est ça, des fois je...
Oh, pas forcément.
Non ?
Pas forcément. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens sont stressés. Il y a des gens qui sont d'un naturel plutôt... Tu vois, j'ai vécu dans un pays où la devise nationale, c'est « casse pas la tête ». Parce que c'est la fête.
Mais tu sais, en quoi on voit qu'ils sont stressés ?
Ouais.
C'est parce qu'ils ont besoin d'adorer quelque chose d'autre que Dieu. Ah. Et à partir du moment où tu as besoin d'adorer autre chose que Dieu, c'est pour répondre à un besoin. C'est pour répondre à une angoisse. C'est pour répondre à l'incertitude du lendemain, de ton éternité, ou des choses comme ça. Donc, le fait qu'ils aient besoin d'une alternative, ça prouve qu'ils sont stressés quelque part. Ah ouais. Tu vois.
Il y a une recherche et un besoin qui n'est pas assouvi.
Ils ont rejeté Dieu eux-mêmes. Parce que...
Oui, bien sûr.
Hein ? Il est dans le contexte de ce verset-là.
Oui. Oui. Donc, tout le monde sur cette planète va expérimenter du stress à un moment ou à un autre. Il y en a qui le seront plus que d'autres. Il y a des gens qui seront plus soumis à des conditions stressantes aussi.
Ouais.
On n'est pas tous soumis à la même vie, aux mêmes exigences, aux mêmes difficultés. Donc il y en a, dès le berceau, leur vie, c'est le stress. Hein. C'est la survie. Et puis il y en a d'autres. En apparence, beaucoup, mais tout le monde fait face au stress. Et une vie sans Dieu ne peut être qu'une vie où il y a du stress.
Mmh.
Parce que c'est une vie où tu es forcément tout seul. Où tu te reposes sur les autres. Mais c'est pas fiable, les autres. C'est instable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est habité par ces pensées-là ? Le titre de cette étude, c'est « Démasquer la source du bruit ». Démasquer la source du bruit, ça veut dire analyser ce à quoi je pense. Pourquoi je suis stressé ? quelles sont mes pensées? J'ai peur de quoi? Ah oui, et si? Et s'il arrivait telle chose? Et si je perdais telle chose? Et si mon besoin n'était pas satisfait? Alors, on a vu, le premier verset qu'on a vu, c'était 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 et 3. Je rappelle, il dit, la grâce et la paix sont multipliées par quoi? Connaissance de Dieu. Et la vie et la piété sont données au moyen de la connaissance. Donc il y a des choses à connaître au sujet de Dieu pour expérimenter la paix. Je vais vous en partager beaucoup. Je ne vais pas tous les compter. Mais ça va être l'essentiel là de ce qu'on va voir ce matin. Première chose, première vérité, Dieu est bon. Toujours. Est-ce qu'il y a des moments où Dieu n'est pas bon?
Il est constant.
Il est constant. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des moments où Dieu n'est pas bon?
C'est nous qui répondons. Ah. C'est l'homme qui pense.
Et c'est important de dire, mais est-ce que vous voyez dans la Bible des moments où Dieu n'est pas bon?
Quand on ne fait pas sa volonté, au deuxième mois aussi, quand on n'obéit pas à sa voix, du moins à sa parole.
Est-ce que Dieu cesse d'être bon?
Non.
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 Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il réagit par quoi? Par la colère. Mais est-ce que sa colère est mauvaise?
Non, elle est juste.
Sa colère est juste, donc Dieu est toujours bon. Donc quand on dit que Dieu est bon, alors on pourrait trouver tous les versets, notamment des psaumes, où il dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » C'est une vérité absolue. Dieu est bon. Toujours. Et ça implique plusieurs choses. Ça implique que Dieu va toujours satisfaire à mes vrais besoins. Toujours. Dieu ne fera jamais défaut pour mes besoins. Alors, on va lire...
Pardon, pasteur.
Oui.
Les païens disent, ainsi que les chrétiens aussi, souvent, certains, disent que si Dieu est bon, on entend ça souvent, si Dieu est bon, pourquoi genre il souffre, il est malade, il y a la guerre, il y a la mort. Que penses-tu de toutes ces questions-là?
Que leur problème, c'est pas tellement de croire Dieu, que Dieu existe, c'est de réconcilier ce qu'ils voient avec l'existence d'un Dieu bon. Parce qu'ils savent que Dieu est bon, il est décrit comme bon dans la Bible, et l'homme a une connaissance instinctive du fait que Dieu est bon. Mais ils n'arrivent pas à se dire, mais attends, comment il est possible qu'il y ait un Dieu bon et autant de souffrance dans le monde? Maintenant, une réponse qu'on peut dire à ce moment-là, ok, tu crois qu'il n'y a pas de Dieu, très bien, tu es dans un monde donc où il n'y a pas de Dieu. Et maintenant, dans ton monde sans Dieu, le mal, qui est bien là, hein, il vient d'où? D'où vient le mal? Puisqu'il n'y a pas de Dieu, qui est-ce qui le fait, le mal? Les hommes. Bon, problème résolu. Voilà. Question suivante. Donc Dieu ne fait pas le mal. C'est pas Dieu qui fait le mal. Dieu fait le bien. Maintenant, il faut connaître ce Dieu, le connaître mieux, et justement pour pouvoir être dans une grâce et une paix multipliée, pour connaître son caractère. Et justement, la Bible nous dit que Dieu est bon et qu'il est toujours bon. Et ça implique qu'il va toujours pourvoir à mes besoins. Alors, attention, on parle de vrais besoins, pas de nos caprices. D'accord ? Mais il va toujours satisfaire à tous mes véritables besoins. Et on va lire d'abord dans Philippiens 4, les versets 13 et 19. Philippiens 4, verset 13. « que quelqu'un veut lire ces deux versets, s'il vous plaît?
Bien.
Philippiens 4, 13 et Philippiens 4, 19.
Je puis tout par celui qui... Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.
Merci. Premier verset, Philippiens 4, 13. Je puis tout par Christ ou par celui qui me fortifie.
Ah, j'avais cité de tête. j'avais cité de tête en fait. Oui, oui. Après, j'ai lu.
Moi, j'ai les deux. Enfin, là, j'ai je puis tout par celui qui me fortifie et il y en a qui ont je puis tout par Christ qui me fortifie. Une grande cause de stress dans ma vie, c'est je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Et je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai prêché sur ce texte, justement, je savais que Dieu voulait que je prêche sur ce texte quand j'ai fait l'épître aux Philippiens. Et ma première pensée, c'est je ne peux pas prêcher sur ce texte, je ne vais pas y arriver. Et Dieu m'a dit, mais attends, mais Baptiste, tu es en train de dire que tu ne peux pas prêcher sur un texte qui dit justement que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Vous voyez la pensée incrédule profondément enracinée dans mon cœur. Donc, le « je ne peux pas », Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire, en tout cas que nous ne pouvons pas faire sans lui. Donc, si Dieu nous demande de faire quelque chose et que nous n'avons pas la force physique, la force morale, ça veut dire qu'il va nous la donner, il va nous l'accorder. Il va nous précéder, exactement.
Mais dans ce verset-là,
oui.
Le 13,
oui.
Attention non plus à ne pas en faire un hors-contexte.
Oui.
C'est « je puis tout par celui qui me fortifie à partir du moment où il m'appelle à faire quelque chose ».
Absolument.
Et pas « tiens, je me lance dans les JO et je vais rouler parce que,
oui.
Parce que c'est aussi important ». Parce qu'il y en a qui vont dire « je peux tout par celui qui me fortifie ».
Oui, mais qui vont se lancer là où Dieu ne les appelle pas. Mmh. Absolument. Et ce qui va être une grande cause de stress, lorsque je vais me charger de fardeaux que Dieu ne m'appelle pas à porter.
Le verset précédent, avant le 13,
oui.
il cadre bien
oui.
les choses. Donc, être soit en haut, soit en bas.
Voilà, exactement. Là, il s'agissait de vivre dans des conditions difficiles. Mmh. Et Dieu lui a donné la capacité de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Mmh. Maintenant, le verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » C'est un Paul en prison qui écrit ça. En prison, une prison qui n'avait rien à voir avec nos prisons modernes. Bon, ce n'est pas très enviable d'être en prison aujourd'hui. Ça n'a jamais été très enviable d'être en prison. Mais les conditions de l'époque, c'était un trou, la prison. Un trou en dessous du niveau de la rue, ce qui fait que quand il y avait de fortes pluies, c'était un déversoir pour les égouts des prisons. Alors, le niveau d'eau montait dans les prisons pour pas que les rues soient inondées. Donc il n'y avait pas la lumière du jour, enfin,
il y a des rats.
Bah, des rats, certainement des puces,
ouais.
Des poux, tout un tas de vermine et une odeur. Il n'y avait pas de toilette, hein, d'accord ? Pas de toilette dans la prison. Ça devait être absolument abominable. Mais Paul a écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse ». Alors, il venait de recevoir un colis, hein, des Philippiens, avec certainement de quoi pourvoir à ses besoins. Et c'était une action de... Une raison de louer le Seigneur, d'avoir des actions de grâce. Mais Dieu va toujours satisfaire mes véritables besoins. C'est pour ça que je dis des besoins véritables, pas des caprices. Parce qu'on est capricieux. Il me faut ceci, il me faut cela. Pas forcément, en vrai. Maintenant, on va regarder dans Matthieu 6, versets 31 à 33. Quelqu'un veut le dire ?
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Merci. Donc Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Si je doute de cela, ben je suis dans l'incrédulité. Je ne suis pas d'accord avec la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça, c'est la vérité ? Ça veut dire que je vis, si je ne crois pas ça, je vis dans un monde qui n'est pas vrai. Ce n'est pas le monde de Dieu. Parce que dans le monde de Dieu, il pourvoit toujours aux besoins de ceux qui se confient en lui. Ça ne veut pas dire qu'il les couvre d'or. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'abondance excessive qui caractérise notre époque. Mais ça veut dire qu'ils ont toujours de quoi s'habiller, de quoi se nourrir, de quoi boire, et de ne pas s'inquiéter du lendemain. Toujours suffisamment pour ne pas s'inquiéter du lendemain. Et je suis sûr qu'en repassant 3 minutes à réfléchir, même pas 3 minutes, vous vous souviendrez d'un moment où Dieu a pourvu à vos besoins sans que vous le lui demandiez. Avant même que la pensée de lui demander vous soit venue à l'esprit. Et ça vous a peut-être humilié en disant « Seigneur, j'ai même pas prié pour ça. J'aurais dû prier et je ne l'ai même pas fait, mais toi tu as pourvu quand même. » Je me souviens, il y a quelques années, j'ai reçu une paire de chaussures neuves, d'excellente qualité. Ça fait 8 ans que je les ai, ces chaussures-là. 8 ans. Je n'ai même pas demandé au Seigneur. J'en avais besoin, je n'avais même pas demandé au Seigneur. Dieu y a pourvu.
Il avait trouvé que tu avais des beaux pieds parce que tu annonçais l'évangile.
Amen. Donc Dieu va toujours satisfaire mes véritables besoins parce qu'il est toujours bon. Mais Dieu va aussi toujours pardonner mon péché. Toujours. Une grande cause de stress chez de nombreux chrétiens, c'est le doute. Dieu me pardonne vraiment. Est-ce que vraiment il va me pardonner? Vraiment. Que dit la parole? 1 Jean chapitre 1 verset 9. Jean chapitre 1 verset 9.
Jean
chapitre 1 verset 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Merci. De temps en temps, sauf exception, est-ce qu'il y a quelque chose d'ajouter ? Non.
Il y a une condition, Baptiste.
Laquelle ?
On va confesser.
Si nous confessons,
si nos, nous confessons nos péchés.
Oui.
Absolument. Exactement. Et c'est ce qu'on avait lu dans le psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consument. Donc le stress, en réalité, ne vient pas du refus que Dieu a de pardonner, mais de notre refus de confesser. Et de croire.
C'est une condition, ça. C'est une condition.
C'est une condition.
Ouais. Il faut.
Faut confesser le péché. Si. Oui.
Et si on met le deuxième verbe, reconnaître, reconnaissant.
Oui. Oui. Nous pouvons reconnaître nos péchés.
Comme David. Psaume 51.
Je t'ai fait connaître mon péché. Oui. Psaume 51. C'était la deuxième référence. Vous pourrez lire tout le psaume, mais. Quand vous lisez le psaume 51, verset 5, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Donc, reconnaître, oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai péché. Et là, ce que fait David, c'est qu'il confesse son péché. Il est d'accord avec Dieu. Et est-ce que Dieu refuse de pardonner? Non. Est-ce qu'il y a des moments où il refuse de pardonner? Non. Regardez, Ésaïe 66, verset 2. Et c'est le dernier chapitre de l'Ésaïe. la deuxième partie du verset. Dieu dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Dieu a les regards sur nous, si nous craignons sa parole et que nous souffrons, nous avons l'esprit abattu, c'est ce qu'on voyait aussi dans le psaume 51, ce qu'on peut voir dans le psaume 32, et à de nombreux autres endroits. 66.2, la deuxième partie du verset, hein. C'est un verset assez long.
Je crois que c'est pour moi, tu l'as.
Isaïe 66, 2.
66, verset 2, la deuxième partie du verset, c'est un long verset.
Et qui souffre et qui l'esprit abattu, je crois que c'est un peu... C'est un peu notre...
Oui, mais, pardon, pasteur.
Oui.
Tout à l'heure, on a pris le psaume 51. Mm-hmm. Parce que le prophète Nathan est venu auprès de David.
Mm-hmm. Oui.
Voilà, c'est à ce moment-là qu'il a reconnu son tort, du moins ses péchés.
Oui.
Et si, admettons un exemple, je prends mon frère, excuse-moi, hein, si Jean a péché,
oui,
mais il n'arrive pas à reconnaître ses péchés,
oui,
comment se fait-il que il arrive à se confesser?
Bien. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. On n'a pas forcément besoin de tel ou tel, on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre notre péché.
Et c'est intéressant quand même comment Nathan il vient vers David. Il vient avec une image.
Oui.
Pour lui faire comprendre. Oui. Peut-être que s'il lui avait dit directement, David n'aurait pas reconnu. Mais là, c'est un peu comme c'est en parabole du Seigneur.
C'était bien aussi la réaction qu'il a eu David. Parce qu'il était. Il avait pris une position, franchement, de punir la personne qui avait ça. Et quand il s'est rendu compte que c'était lui, ça l'a diminué tout de suite.
Il a dit cette personne mérite la mort.
C'est ça.
Et quoi qu'il en soit, on est assuré aussi que Dieu veut toujours que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité.
C'est ça.
Donc, Dieu va montrer la vérité. Si on désire la connaître, Dieu va nous la montrer, la vérité.
C'est ça.
Donc, Dieu va toujours satisfaire à mes besoins. Dieu va toujours pardonner lorsqu'on confesse nos péchés, hein, lorsqu'on les reconnaît. Et Dieu va toujours préparer quelque chose de bon pour moi. Par toujours.
Contre, par rapport à ce que vient de dire Baptiste, j'ai l'ai vécu cette semaine, on a partagé même avec Clément. On a eu, j'allais pas dire un accrochage, mais indifférent avec un des responsables. Et du coup, je me trouvais vraiment dans une position où je ne voyais pas du tout là où j'ai fauté. Rien du tout. Mais plus profond de moi, je me disais, il y a quelque chose que j'ai loupé, que je ne voyais pas. Et voilà, j'avais enregistré la conversation, une de mes collègues, et je ne le voyais pas, je n'étais pas tranquille. Mais partant de la loi du monde, j'étais vraiment dans... J'avais raison, mais je n'étais pas tranquille, malgré cet accrochage qu'on a eu. Parce qu'à ce moment-là, aux yeux du monde, bah, tu n'as rien fait, c'est tranquille, tu peux bien dormir. Et puis, arrivé à la maison, j'ai fait écouter le message à Julien. Et Julien m'a dit, écoute, je pense que là, c'est vrai que tu as raison, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais je viens avec un problème du travail, j'étais pas bien. Et puis, en plus, je demande ton conseil, au lieu que tu puisses me soutenir, tu ne t'as pas reçu le doigt. Et je vous assure, mes frères, je n'ai pas dormi jusqu'à 3h du matin à peu près. Jusqu'au moment où j'ai compris que je n'ai pas besoin de répliquer, de parler pour faire la gloire de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, pas la paix qui m'est donnée, mais qu'il lui-même vienne à moi. Ça n'a pas fait même 10 minutes. Du temps. Et ça m'a fait du bien. Là, c'est vraiment très bien. En tout cas, c'est l'esprit qui nous convainc. Mais si nous arrivons, si l'esprit permet que nous puissions voir là où nous avons fauté, même si le monde dit qu'on a raison, mais Dieu qui connaît la vérité, celui qui est la vérité, connaît toutes choses, et s'il nous convainc, et c'est là où nous sommes sortis de tout et en toutes choses. J'ai jamais parlé, on va partager avec elle.
Merci. Troisième point, Dieu va toujours préparer quelque chose de bien dans ma vie. On peut parfois être stressé parce que on voit plus d'espoir, c'est foutu, c'est fichu, c'est mort. Mais que dit la parole? Est-ce que la parole dit que quelque chose est fichu? Est-ce que ma vie est ratée? Regardez, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Allez, là, je suis sûr qu'ils peuvent le citer de tête. Sergio, tu pouvais le citer?
Je pense.
Tu l'as sous les yeux.
Ouais, je pourrais.
Là, si tu veux le lire, vas-y.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Dieu a formé des projets de paix. Est-ce que ça concerne que Israël? Et Dieu aurait des projets, pas que de paix, mais un peu de paix, et puis un peu de malheur aussi quand même pour l'Église? Non. Dieu a des projets merveilleux. Pour l'Église, pour ses enfants. Et si vous regardez aussi dans Romains, chapitre 8, versets 26 à 34. Romains 8, versets 26 à 34. Et même 36, d'ailleurs. Quelqu'un vous dit ce passage? 26 à 36.
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, il intercède en faveur des saints.
Arrête-toi là juste un instant, s'il te plaît. En quoi ce passage nous montre que Dieu a toujours de bons projets pour nous? Et parce que même lorsque nous ne savons plus quoi demander dans nos prières, lui, Dieu n'est pas à court de solutions. Alors que l'Esprit qui est en nous va intercéder. Seigneur, je ne sais même pas quoi te demander, mais tu peux faire quelque chose. Voilà. Parce que Dieu a toujours des plans pour nous. Oui. Tu veux bien lire la suite jusqu'au verset 36?
Ouais. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui la condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
On va s'arrêter là, on lira les deux versets suivants ensuite. Donc, là, il est question de chrétiens qui sont dans l'épreuve, dans la tourmente, qui peuvent être accusés par le monde d'être des malfaiteurs. Et qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est-à-dire que même face aux plus grandes des tribulations, la parole de Dieu nous assure toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait exception? Non. Il n'y a rien qui fait exception. Donc on voit que Dieu... satisfait toujours nos véritables besoins, qui pardonne toujours nos péchés, qui prépare toujours quelque chose de bien dans notre vie, même au travers des plus grandes épreuves, des plus grands tourments, des plus grandes difficultés, des plus grandes douleurs. Il y a toujours, toujours, quelque chose de bien que Dieu est en train de préparer. Et comme Dieu est bon, il ne peut pas désirer autre chose que notre bien suprême. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre pour notre bien suprême. même au milieu des afflictions. Et si on refuse de croire cela dans nos difficultés, on vit dans un monde qui n'existe pas. Parce qu'un monde où Dieu ne désire pas le bien de ses enfants n'existe pas. Un monde où Dieu n'est pas à l'œuvre pour faire en sorte que les circonstances, même les plus difficiles, ressortent et soient transformées pour un bien, ce monde-là n'existe pas. Vous voyez pourquoi on parlait de la vérité tout à l'heure ? La vérité, c'est ce que Dieu dit être vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et si je suis stressé, c'est parce que finalement, je vis dans ma tête, hein, dans un monde qui n'existe pas. Un monde où Dieu ne travaille pas pour mon bien, où Dieu laisse survenir des choses comme ça, qui me paraissent absurdes. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous paraissent absurdes. Mais pourtant, est-ce que, quand il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est accepté ? Est-ce que mon lumbago est accepté ? Sauf le lumbago de Baptiste du 8e. Je vous confie un truc, ça vous fera peut-être un petit peu sourire. Il y a quelque chose qui me met souvent en rogne. C'est-à-dire, mais c'est une broutille. Hein. C'est quand le matin, je suis attablé devant mon petit déjeuner, devant mon bol de thé, mon bol de café, qu'il se passe quelque chose de terrible, c'est que ma tartine m'échappe des mains et elle tombe dans le bol. Ça vous est déjà arrivé ?
Ouais.
C'est comme ça.
Ça éclabousse.
Et même si ça éclabousse pas, après on se retrouve avec un morceau de pain
qui est mou là, ça sert à rien.
Pour peu que vous soyez pas forcément bien réveillé, que vous ayez déjà eu un certain nombre d'épreuves qui arrivent dans les familles nombreuses, hein, déjà le matin avant le petit déj, ça a déjà été une journée quoi. Hein. Et qu'en plus il y a la tartine qui tombe. Ah, mais est-ce que cette tartine là, elle est acceptée dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu aurait pu faire en sorte que la tartine ne tombe pas ? Est-ce que Dieu, c'est une question sérieuse, est-ce que Dieu aurait pu faire que la tartine ne tombe pas ?
Oui.
Elle aurait pu rester en lévitation au-dessus de mon bol. Elle aurait pu tomber à côté, et du bon côté en plus, pas sur le côté beurré, évidemment. Hein. Ça aurait pu.
Si c'est nécessaire.
Si c'est nécessaire.
C'est qu'il y a pas une tasse, hein, mais ça va pas tomber.
Mais si, ça peut arriver. Même. Ou alors c'est la tasse qui va se renverser. Non ? Et puis si c'est pas moi ? J'en ai d'autres autour de moi à qui ça arrive. Et la tartine, hein, la loi de la tartine beurrée, la loi de Murphy, elle s'exerce toujours dans ces cas-là. Hein.
Ouais, je peux la tartiner de l'autre côté.
Oui. Mais même dans des choses comme ça, qui ne peuvent nous paraître absurdes, c'est-à-dire, est-ce que Dieu vraiment, il se soucie de ma tartine beurrée le matin ?
C'est pour ça que même pour une tartine, il ne t'éprouvera jamais au-delà de tes forces.
Exactement. Exactement. Et que j'ai pas à me mettre en rogne. Rien de voir cette tartine, des fois, je me dis, oh, ma journée est foutue. Voilà, ça y est. Voilà le type de pensée. J'exagère volontairement, hein, vous avez compris, je force un petit peu le trait, mais dans des situations comme ça, et pour peu que vous ayez déjà été mis un petit peu sous tension avant, là, un truc aussi bête qu'une tartine qui tombe dans un bol de thé, ça peut vous faire... Ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Ça peut ruiner la journée, quoi.
Mmh. Oui, carrément.
Ça peut arriver aussi par maladresse ou par l'émotion.
Bien sûr. Oui, mais ça n'empêche pas que je vais être quand même...
C'est ça.
Hein? Ou le petit enfant qui veut bien faire, qui débarrasse sa tasse et je... Pling! Il faut pas faire attention.
Ouais, c'est pas moi, c'est lui.
Mais est-ce que Dieu poursuit quelque chose de bien au travers de ça ? Dans le monde de Dieu, oui. Est-ce que j'ai du mal à croire ? Ah, peut-être bien. Et pourtant, c'est la vérité. Vous vous rendez compte que quand on dit la parole de Dieu est la vérité, l'implication que ça a, jusque dans des détails importants. Mais ça veut dire aussi, si Dieu est bon, ça veut dire qu'il va m'aimer personnellement, toujours. Toujours. Est-ce qu'on peut lire les versets 35 à 39, s'il vous plaît ? une bonne volonté pour lire ces 5 versets.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Merci. Question: est-ce qu'il y a quelque chose dans la création tout entière qui peut empêcher Dieu de m'aimer?
Rien.
Rien. Est-ce que quelque chose peut faire que Dieu change de sentiment à mon égard?
Si vous ne le croyez pas.
Hmm?
Si vous ne le croyez pas, oui, il ne sera pas avec toi.
Alors là, il est question de croyant, hein, d'accord? On parle de croyant. Mais à partir du moment où je suis entré dans l'alliance avec Jésus-Christ, et même avant, j'ai envie de dire, le monde a reçu un témoignage extraordinaire de l'amour de Dieu. Et les incroyants seront jugés par rapport à ça. Vous avez... La lumière est venue dans le monde, vous avez refusé la lumière. L'amour de Christ a été manifesté, vous avez refusé cette preuve. Pourtant, Dieu vous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et vous avez rejeté le Fils. Donc, y a-t-il quelque chose qui puisse faire que Dieu nous aime moins? Il a déjà donné le plus. Il ne peut pas faire moins. Il ne peut plus faire moins. Ce n'est pas possible. Il a déjà donné la plus grande preuve d'amour qui peut se concevoir.
C'est le verset, lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnerait-il pas tout
oui.
En lui?
Oui, c'est là, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Il a déjà donné le plus. Alors tout le reste, en comparaison.
Il a même prouvé, ça c'est le mot. Il a prouvé son amour. On sait qu'il a un amour, mais il l'a prouvé en plus en donnant son fils, alors qu'on était encore les pécheurs. Mais à chaque fois, ça voyait en tête, il a prouvé son amour. Et on a beau dire, il n'a pas besoin de prouver son amour, il nous aime. Quoi.
C'est déjà fait.
Mais
si on avait besoin d'une preuve, on l'a.
Oui, c'est ça.
Et ceux qui refusent de croire, c'est mon cœur pécheur qui doute. Ou qui se fie à des circonstances extérieures.
Mais on ne peut pas douter avec une chose pareille, c'est pas possible.
On ne devrait pas.
Mais
on
peut. Ça arrive.
Oui, on peut.
C'est le corps qui bloque. Quoi.
Oui.
C'est pas le corps, c'est le cœur. Le cœur pécheur qui refuse. Vous savez, votre cœur pécheur, le mien, hein, nos cœurs pécheurs, ne croiront jamais. Le cœur pécheur est tellement pécheur que Dieu l'a crucifié. Nous avons été crucifiés avec lui parce qu'il est tellement irrécupérable. Il fallait lui régler son compte. Et c'est pour ça qu'il en donne un nouveau, tout neuf. Parce que ce cœur pécheur, il ne peut pas croire. Il ne peut pas.
Ces versets sont tellement puissants. En fait, au début, quand nous avons appris, comment dire, l'épreuve qu'on a traversée avec Julien, ça, c'est sont les versets que Baptiste a partagé avec nous tout au début. Et chaque fois en fait, qu'on lisait, à la fin de son SMS, qu'est-ce qu'il a dit? Lisez-les tout, à chaque fois que vous pouvez. Et du coup, des fois, quand c'était un peu dur, je n'avais vraiment pas du tout d'argument, pas de mots à dire. C'était chaque fois ces versets que j'ai récités, que j'ai lisé tout le temps. C'était comme si je disais à mon âme, écoute mon cœur, écoute ce que dit Dieu. Écoute.
Amen.
Et j'ai tapé. Même dans la douleur, et surtout quand il est passé à sa chirothérapie, c'était ces versets qui nous ramenaient vers la raison, dire, mais tiens bien, physiquement, t'as mal maintenant, mais écoute ce que Dieu dit.
Et ça fait vraiment du bien.
Oui.
Ça fait du bien.
Et qui est-ce que vous écoutez quand vous êtes stressé? Finalement, on s'écoute soi. Ou on écoute le bruit.
Ma raison.
Voilà. Oui, notre raison, le bruit, les circonstances, tout ça. Mais les disciples sur le bateau, ils écoutaient le bruit de la tempête. Ils voyaient les vagues, ils voyaient pas grand-chose parce qu'il faisait noir. Il faisait sombre. Jésus, il vivait dans le monde de Dieu, Jésus.
Homme de peu de foi.
Ouais. Il peut être ballotté dans tous les sens. Est-ce que ça change quelque chose à l'amour de Dieu? Non.
Cette prédication-là, elle me fait penser à quelque chose quand, au début, quand j'ai cru, le pasteur nous disait souvent...
N'entends pas.
Il faut que tu parles plus fort, mon frère. Ouais.
Au début, quand j'ai cru, le pasteur nous parlait souvent des jeux de hasard. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu commences à penser, à réfléchir comment faire pour t'en sortir. Que l'un des problèmes, disons, il disait... qu'il fallait que si celui qui a créé ce jeu qui permet de gagner, si c'était vraiment un homme de Dieu, il ramasserait ça et il donnerait à tout le monde. Mais s'il vous fait jouer, c'est parce qu'il a des intérêts derrière, qu'il ne peut pas, ce n'est que Dieu qui peut venir et vous dire, venez, vous allez tous gagner. Que ce n'est qu'en Dieu que tout le monde gagne. En dehors de Dieu, il n'y a pas de jeu où on gagne. Oui. Celui qui propose le jeu, c'est lui qui.
C'est lui qui gagne. C'est pour son intérêt.
Hein. C'est pour son intérêt. Oui. Donc, on a cette tâche de prêter l'oreille à la bonne voix et de mettre en route le bon magnétophone, si je peux dire. Parce que. Moi, je n'ai pas besoin de me forcer beaucoup pour être stressé. Il suffit que je réfléchisse un petit peu aux circonstances, mon emploi du temps. Il suffit que je réfléchisse à mon emploi du temps pour être stressé. J'ai ça à faire, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Oh, ben, je ne vais pas y arriver. Pouf, je suis stressé. Ça y est. Mais si je me remémore les... Qui est Dieu? Qui est Dieu? Si je dis, écoute mon cœur, comme je fais remarquer, mais écoute mon cœur. Allez. Le stress disparaît parce que je suis entre les mains d'un Dieu qui est toujours bon. Toujours. Et qui va m'aimer toujours, personnellement. Il n'y a rien qui pourra altérer cela. Autre vérité, Dieu va toujours m'accorder la grâce dont j'ai besoin. Toujours. 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 Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut empêcher Dieu de m'accorder la grâce dont j'ai besoin?
Tu peux nous expliquer ça, pasteur? Pardon, le verset 36,
oui.
Que Paul dit, c'est à cause du droit qu'on nous met à mort tous les jours.
Mm-hmm. C'est ce qui se passait pour ces chrétiens. Alors, il cite là Ésaïe 53, psaume 44, pardon. Psaume 44. Les chrétiens, à cette époque-là, étant grandement persécutés, et bien on les regardait comme des brebis destinées à la boucherie. On les mettait à mort tout le temps. Et malgré cela, l'apôtre Paul dit, non, désespérez pas. Ça n'est pas le signe que Dieu ne vous aime pas. Ça n'est pas le signe que Dieu nous livre au désespoir. Ça n'est pas le signe que Dieu a arrêté ses projets. Ça n'est pas le signe, excusez-moi, est-ce qu'on a vu d'autres, que Dieu ne pardonne plus nos péchés, ça n'est pas le signe que Dieu cesse de pourvoir à nos besoins. Parce qu'un monde dans lequel ces choses arrivent n'existe pas. La vérité que Dieu nous révèle à son sujet, c'est qu'il pourvoit toujours à tous nos besoins, qu'il pardonne toujours notre péché, qu'il nous aime toujours d'un amour inaltérable, et qu'il prépare toujours de bons projets. C'est-à-dire que même si je devais être livré à la mort, quelle qu'en soit la raison, si Dieu décide que ma vie doit s'arrêter demain, la gloire à Dieu, est-ce que je suis privé de toute espérance? Certainement pas, je vais monter plus haut. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne m'aime pas? Certainement pas. Dieu a dit qu'il m'aimerait toujours. Est-ce que ça veut dire que Dieu a cessé de pardonner mon péché? Pas du tout. Aucune de ces choses-là ne peut être vraie, puisque Dieu dit qu'elles sont fausses. Donc si Dieu décide que ma vie doit s'arrêter demain, c'est que c'est une bonne chose. Et je ne dois pas faire comme le roi Ézéchias. C'est Ézéchias, hein?
Oui, qui voulait...
Qui a dit, ah, non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Il lui dit, ok, voilà, tu vas avoir 15 ans de vie supplémentaire. Qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 15 ans de vie supplémentaire? Il a engendré le roi le plus mauvais de toute l'histoire d'Israël. S'il avait su garder sa prière, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de prier, s'il avait su ce qui arriverait, certainement qu'il n'aurait pas prié. Donc Dieu a toujours des plans. Et je vous dis cela aujourd'hui, je vis dans une vie où je n'ai pas de grosses épreuves, honnêtement, hein, entre vous et moi. Le quotidien est constitué de petits défis, mais si je mets ça dans la balance par rapport à ce que vivent d'autres, ma vie est facile, vraiment facile. Mais si Dieu décidait d'un seul coup que ma vie le soit moins, est-ce que Dieu aurait cessé de m'aimer?
Non.
Non. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu me châtie pour mon péché? Non, parce qu'il me les a pardonnés. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce sont des versets qui doivent profondément pénétrer nos âmes. Parce que c'est la vérité. Et qu'en refusant cela, ou en argumentant, finalement, avec qui est-ce que j'argumente? Dieu a-t-il réellement dit « Tous tes péchés sont pardonnés » Dieu a-t-il réellement dit qu'il est bon? Dieu a-t-il réellement dit qu'il t'aimerait toujours? C'est qui va dire ça? C'est pas Dieu. Dieu, il a affirmé cette déclaration qui est la vérité. Après, donc Dieu va m'accorder toujours la grâce dont j'ai besoin. Ça, j'ai besoin moi personnellement de me le rappeler souvent parce que ma vie est faite d'une multitude de défis et d'un emploi du temps est constitué d'un emploi du temps qui se charge très vite et beaucoup. Alors, regardez ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8.
Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Ah.
Donc là, il est question de besoins matériels. J'ai peut-être pour aujourd'hui, je n'aurai pas pour demain. Mais Dieu peut toujours combler de toutes ses grâces, et de telle sorte que je possède toujours en toutes choses de quoi satisfaire à mes besoins. Mmh. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, c'est que je n'en ai pas besoin. Et si vous regardez un peu plus loin, chapitre 12, versets 9 et 10, versets qu'on connaît peut-être un petit peu mieux. Chapitre 12, versets 9 et 10.
Et il m'a dit, ma grâce t'est suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Merci. Dieu va toujours m'accorder la grâce dont j'ai besoin. Il n'a pas dit qu'il me donnerait d'un coup toute la grâce dont j'aurais besoin pour toute ma vie, mais il va me donner aujourd'hui la grâce dont j'ai besoin pour aujourd'hui, il me donnera demain la grâce dont j'aurai besoin demain. Et lorsque je me dis, mais je n'ai pas la force de faire ça, je n'y arriverai pas. À qui est-ce que je regarde? À moi? Ou à celui qui a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplira dans ta faiblesse.
Ça fait longtemps qu'on a chanté ça.
Oui. Donc on a vu, Dieu est bon. Regarde un petit peu l'heure, il nous reste un petit peu de temps. Dieu est toujours grand. Il y avait cinq sous-points. Hein. pour Dieu est toujours bon. Et ça impliquait qu'il allait toujours satisfaire mes besoins, toujours pardonner mon péché, toujours quelque chose de bien dans ma vie. Il m'aimait toujours personnellement, il m'accordait toujours la grâce dont j'ai besoin. Mais Dieu est toujours grand. Je crains que souvent on ait un Dieu qui soit petit. Quand on est stressé, c'est qu'on a un Dieu qui est petit. Et des problèmes qui sont plus grands que Dieu. Des circonstances qui nous semblent plus grandes que Dieu. Mais est-ce qu'il existe un monde où quelque chose peut être plus grand que Dieu ? Donc quand je vis dans ce monde-là, où les problèmes sont plus grands que Dieu, je vis dans un monde qui n'existe pas. Ce n'est pas le vrai monde, ce n'est pas la vérité. Ça veut dire, si Dieu est grand, ça veut dire qu'il contrôle toujours toute chose. Même ma tartine qui tombe dans mon bol le matin. Même mon garçon qui se casse la jambe. Même mon dos qui se bloque un matin. Même les embouteillages que vous rencontrez pour aller au boulot. La panne d'ordinateur. La personne au bout du fil qui cherche à dépanner votre imprimante et qui vous dit « Monsieur, est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez bien allumée ?» Oui, c'est aussi dans les mains de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Que Dieu contrôle toujours tout ? Même le pécheur ? Qui nous fait du mal ? Est-ce que Dieu aurait pu empêcher le pécheur de faire du mal ? Il aurait pu. Si vous lisez, je vais vous lire psaume 103, verset 19. Dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. » Son règne domine sur toute chose. Dans les cours de relations d'aide que j'ai pris, j'ai dû à un moment... assisté par vidéo interposée à des entretiens de relations d'aide. Et il y avait une dame, un problème un petit peu similaire à celui de ma tartine qui tombe dans mon bol le matin, c'est qu'elle voulait bien faire avec ses enfants, être une bonne maman, et un jour elle a décidé de faire des cookies avec les enfants, et puis bah, le gros saladier plein de pâtes à cookies qui explose par terre. Et elle explique à son conseiller, mais alors là j'ai explosé. J'ai explosé, je me suis énervé, j'ai grondé mon enfant, et je me suis senti mal après. Et dans l'entretien, il s'avère que le conseiller a mis le doigt sur le fait qu'elle ne croyait pas à cette souveraineté de Dieu qui contrôlait même la pâte à cookies, le saladier avec la pâte à cookies dedans. Est-ce que Dieu aurait pu empêcher ça d'arriver ? Oui. Est-ce que Dieu l'a fait ? Non. Est-ce que Dieu fait de mauvaises choses ? Non. Donc c'est forcément que c'est quelque chose qui va contribuer au bien. Ça fait partie de ce plan pour apprendre à réagir d'une manière saine et sainte. Ça veut dire aussi, si Dieu est grand, qu'il est toujours présent auprès de moi, que je le sente ou que je ne le sente pas. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez senti la présence de Dieu à vos côtés ? Je pense que ça nous est tous arrivé à des degrés divers. Oui, j'ai eu un bon moment avec le Seigneur. Oui, il était avec moi. On dit, il était avec moi. Problématique, ça. Parce qu'il l'est toujours, en vrai.
Il est avec moi.
Il est avec moi. Il y a des moments où on arrive à en profiter plus que d'autres, mais la vérité, c'est que Dieu est toujours avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples ? Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur... Ah, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Où fuirai-je loin de ta face ? Où fuirai-je loin de ton Esprit Saint ? Si je vais au séjour des morts, t'y voici. Si je prenne des ailes et que j'aille à l'extrémité de la terre, te voilà.
Il dit à José aussi, nul ne tiendra devant toi, et je serai avec toi.
Je serai avec toi ? Oui. Donc la présence de Dieu est assurée. J'ai entendu des chrétiens justifier leur péché en disant « mais c'est Dieu qui m'a lâché la main ». J'ai péché parce que Dieu m'a lâché la main.
C'est nous qui avons lâché la main de Dieu.
Ah. C'est ça. Oui.
Dieu jamais lâchera jamais la main.
Personne ne peut nous ravir de la main de son Père.
Mmh, c'est ça.
Si on a péché, c'est qu'à un moment, on a fait plus que lâcher sa main.
Mmh. Ah oui, c'est écarté. Hein.
Clairement. Parce que quand j'ai envie que mes enfants n'aillent pas à droite, à gauche, les petits, okay, hein, quand ils ont tendance à courir comme des fous un petit peu ouais, partout et à faire n'importe quoi, ouais, si j'ai pas envie de les lâcher, je les lâche pas. Pour dire, ah, papa, lâche-moi, tu m'empêles. Ouais. Mais non, tu restes là. Et s'ils arrivent vraiment à s'extraire de ma poigne,
c'est qu'ils l'ont voulu.
C'est qu'ils l'ont voulu, vraiment. Et ils ont décidé de le faire. Donc, Dieu est toujours au contrôle et il est toujours présent. Si vous voulez noter quelques références, il y a quelqu'un qui m'en a cité, qui m'a cité Ésaïe 41:10. Ésaïe 41:10. C'est Alain qui me partageait ce verset ce matin. Qu'est-ce qu'il dit ce verset ?
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prenne pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.
Merci. C'est comme s'il disait, mais hey, ne stresse pas, je suis là. Je suis là. Je me souviens, étant petit, être allé dans un centre commercial. J'étais avec ma maman et ma grand-mère. Certainement, il devait y avoir ma petite sœur aussi, je ne me souviens pas. Par contre, je me souviens qu'à un moment, je les ai perdus de vue. Et là, j'étais stressé. Parce que où aller, où elles sont, je suis tout seul au milieu d'une foule incroyable pour un petit bonhomme. Et il suffit que je les vois, et dis, ah, elles sont là. Tout va bien. Le calme est revenu, mais instantanément, un grand soulagement. Le stress avait disparu en une fraction de seconde. Et Dieu dit, je suis avec toi. Enfin, je serai, je suis avec toi.
Est-ce que les phobies qu'on peut avoir en quelque sorte, c'est pas des... C'est infondé, du coup, c'est quelque chose qui... Ouais, qui renvoie gloire à Dieu, quoi.
Oui. Oui, parce que la phobie, c'est vivre dans un monde où l'objet de la peur est plus grand que Dieu. Beaucoup plus grand que Dieu.
J'ai un exemple, c'est quand on est parti en Bulgarie, par exemple, j'étais avec Josué et Yves, et je sais que je suis mal à l'aise en avion. Mm-hmm. Et je disais à Josué, pourquoi j'ai peur alors que je crois en Dieu ? Et je disais même dans mes prières, mais enfin, je crois en toi, Dieu, mais la situation fait que bah, mm-hmm, quand l'avion il tangue, bah,
oui,
je suis pas bien.
Oui.
Mais c'est quand même un stress et c'est pas une confiance en Dieu.
Ça montre que ta confiance en Dieu est soumise à l'épreuve. Et tu as à chaque fois des occasions de choisir ce dont tu vas avoir peur, qui tu vas craindre. Est-ce que tu vas craindre Dieu ou est-ce que tu vas craindre les circonstances ? À chaque fois, en fait. Et le but de toutes ces études, c'est pas de dire je ne serai plus jamais stressé.
C'est de savoir comment,
c'est comment, comment je réagis quand je suis soumis à du stress. Quel choix je fais ? Et que ce soit en avion ou dans n'importe quelle autre situation,
le bateau
vraiment, ouais, je pas. En trottinette, hein, j'aurais le mal des transports. Hein, donc, personnellement, j'appréhende de monter en voiture avec quelqu'un. Pas parce que j'ai peur de sa façon de conduire, c'est juste que je sais que j'ai tendance à être malade et j'ai peur. Alors, prendre l'avion, le bateau, je vous en parle même pas. Mais qu'est-ce qui est plus grand ? Ces circonstances ou Dieu ? Et en fait, à chaque fois, ce sont des occasions de me dire, pardon, je vais m'accrocher à toi, Seigneur. Ah, c'est un choix, à chaque fois. Ça ne veut pas dire que le bien-être va immédiatement arriver comme le petit halo de lumière hein, dans les films. Oh, d'un seul coup, on est en état de grâce. Et... Ça peut arriver, hein. Ça peut vraiment arriver. Mais souvent, c'est quelque chose de plus profond que Dieu nous demande de creuser et de nous accrocher à la vérité. Parce que le vrai changement de cœur, parce que ce qui est visé, ce que Dieu veut, c'est faire un véritable changement de cœur en nous, pour que finalement le stress, dans certains domaines, disparaisse. Et il va creuser de telle sorte que nous ayons une confiance de plus en plus grande en lui, de plus en plus assurée en lui. Je donne un exemple. J'ai un de mes enfants qui avait peur dans certains jeux pour enfants, vous savez, dans les parcs. Il y a souvent des barres de pompiers où l'enfant il peut descendre. Alors les enfants, eux, même pas peur de rien, ils la montent, ils la descendent, ils se jettent dessus. Et puis, un petit peu peur quand même, voire même carrément la pétoche. Même si je le tenais, là, il criait. Et je l'ai encouragé à le faire et à le refaire. Et confiance. Sauf que maintenant, il prend même des risques, c'est moi qui ai peur. Mais... même plus peur. Mais il a dû travailler dessus à de multiples occasions pour vaincre cette peur-là. Et pour les phobies, c'est la même chose. J'ai une phobie d'un insecte, la mante religieuse. J'ai envie de dire que c'est incontrôlable. C'est-à-dire que je vois la bestiole, je... Voilà. Mais qu'est-ce qui est plus grand, mon Dieu ou cette bête? La réponse, elle est évidente. Mais je dois à un moment agir pour ça, pour vaincre cette folie. Donc Dieu contrôle toujours, Dieu est toujours présent, et Dieu est toujours le même. Il y a des psalmistes qui se disent, mais est-ce que Dieu aurait changé? La droite du Très-Haut n'est plus la même. Il agit plus maintenant comme il agissait auparavant. Mais est-ce que Dieu a changé? Non. Pourtant, c'est vrai qu'il agit plus forcément maintenant comme il agissait avant. Il a plus fait tomber de pluie, de feu et de soufre sur des villes livrées à l'immoralité. Pourtant, il l'a fait avec Sodome et Gomorre. Pourtant, ce Dieu-là est toujours le même. Mais il s'est révélé de telle sorte qu'on puisse le connaître. Que Sodome et Gomorre, la Bible nous dit, sont livrés en exemple. Ça ne veut pas dire qu'il va reproduire cet exemple sur terre, mais que c'est une image de la peine éternelle que les pécheurs encourent. Ce Dieu ne change pas, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. J'aime bien cette expression, il n'y a même pas le début du quart, du dixième, de peut-être un petit changement dans le caractère de Dieu. Il est absolument stable. C'est-à-dire tout le contraire de moi. Je peux me lever de bonne humeur, et 10 minutes après, vous me voyez en train de pleurer avec ma tartine qui prend la flotte. Je suis changeant. Je suis sûr que le Seigneur, une tartine qui tombe dans son bol de thé...
impossible.
Ouais. Peut-être même qu'il va en trouver un sujet de réjouissance. Ah. Et Dieu, il ne change pas. Ce qui est rassurant aussi pour nous, c'est que si Dieu ne change pas, ce qu'il a fait dans le passé, il peut le refaire. Son caractère est toujours le même. À aucun moment, il est question de... Ah, ben, puisque c'est comme ça, maintenant, c'est fini. Non. On peut s'appuyer. C'est difficile d'avoir confiance en quelqu'un qui est soupolé. Vous ne savez jamais s'il va bien ou mal le prendre. S'il ne va pas d'un seul coup se fâcher de... Pourquoi tu te fâches? Je ne comprends pas. Vous avez déjà eu affaire à ce genre de personne?
Ouais.
On peut en avoir peut-être tous des exemples... Il est toujours comme si vous marchiez sur des œufs. Vous ne savez pas si ça va bien se passer, mais avec Dieu, pas de problème, pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Est-ce que Dieu pourrait cesser d'être digne de confiance? Est-ce que quelqu'un pourrait dire un jour, ou dira un jour, Seigneur, je t'ai fait confiance, j'aurais pas dû, tu m'as trahi? C'est ça, hein, c'est de ça qu'on est en train de parler. Parce que lorsque nous, on ne fait pas confiance à Dieu, finalement, c'est ce qu'on dit. Parce que si je lui fais confiance, il ne va pas tenir sa promesse, il ne va pas tenir sa parole. Et en fait, on se met nous-mêmes à vivre dans un monde où Dieu n'existe pas. Où le Dieu qui existe, en tout cas, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et je termine avec une dernière vérité. Dieu est toujours sage dans ce qu'il fait. Toujours sage. La Bible nous dit même qu'il est le seul sage. Vous voulez bien regarder Romains 11, verset 33 ? 33, vas-y.
Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables.
Ah. Un Dieu dont la sagesse est si profonde, insondable. Vous voyez qui c'est Ananias ? Alors, il y en a deux d'Ananias. Il y a Ananias qui est mort avec Saphira, sa femme, et il y en a un autre qui a été l'instrument de Dieu pour que Saul de Tarse retrouve la vue. Et qu'est-ce que fait Ananias quand le Seigneur vient lui dire, écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller dans la rue droite, là, tu sais, et puis tu vas aller voir Saul de Tarse. Qu'est-ce qu'il fait Ananias? Il dit, non mais Seigneur, t'es pas au courant. Est-ce que le Seigneur n'était pas au courant?
Oui.
Ah si, il était au courant. Il dit, tu vas aller voir Saul de Tarse. Oui, mais Seigneur, attends, non mais... Non, mais tu sais pas, en vrai, c'est lui, tu sais, Seigneur. Et des fois, nos prières, c'est un bulletin d'information pour Dieu. Hein. C'est, alors, Seigneur, voici ce qui s'est passé. Le Seigneur, il sait déjà ce qui s'est passé. Et il est seul sage. Des fois, on traite Dieu comme s'il ne savait pas, comme s'il n'était pas sage. Alors que, oui, c'est vrai, ses voies, elles sont, comme disait Romains 11, alors, c'était dit de manière un petit peu différente dans ta version, mais que ses voies, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Je ne sais plus si tu avais la même chose, mais des fois, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Mais est-ce qu'on a besoin de comprendre pour faire confiance? Non, on n'a clairement pas besoin de comprendre pour faire confiance.
C'est là où beaucoup de gens butent et font dans des doctrines qui les font perdre. Qui ne comprend pas ici, dit ben, c'est pas normal.
Est-ce que vous savez exactement tous comment fonctionne un moteur thermique d'une voiture?
Moi je sais, mais tout le monde.
Moi j'ai une petite idée sur certains trucs, voilà, les pistons, le moteur. Okay. Mais moi ce que je sais, c'est que quand j'appuie sur la pédale de droite après avoir enclenché la vitesse, la voiture avance. Est-ce que j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur?
Non.
Pas du tout. J'ai confiance, si j'appuie,
ça passe.
Ça marche.
C'est dans l'argument, ça.
Donc on n'a pas besoin de tout comprendre pour avancer et pour faire confiance. Je ne sais pas exactement comment chimiquement, quelle est la réaction chimique qui se passe dans le moteur justement. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a une combustion, mais alors après, exactement, est-ce que je sais tout ce que les atomes font de... J'en sais rien. J'ai pas besoin de savoir ça.
Tous les appareils qu'on utilise.
Oui.
Téléphone.
Oui.
Oui. Tu sais ce que se passe quand tu composes un numéro pour appeler? Non, mais pourquoi tu appelles?
Tu le fais, ouais, t'as confiance.
C'est ça.
Dieu est toujours sage et je peux faire confiance à Dieu parce qu'il est grand. Et parce qu'il est grand, il est plus grand que mes problèmes. Il est plus grand que toutes circonstances. Il contrôle toujours tout. Et je dois lutter contre l'incrédulité. Alors, je nous laisse avec cette pensée que rejeter les vérités qu'on vient de voir là ce matin, c'est dire, ok, je vais croire un mensonge. Si je refuse de croire ce que Dieu dit au sujet de lui-même, c'est que je suis d'accord et je signe, comme on a vu dans Romains 1, pour dire, non, je veux changer la vérité de Dieu en mensonge. D'où le stress, comment l'homme qui a été fait par Dieu et pour Dieu, pourrait-il être heureux et plein de paix en croyant au mensonge alors qu'il a été fait pour vivre avec le Dieu de vérité? Ça ne peut pas marcher. Donc c'est important de vivre dans le monde que Dieu a créé. Vous avez remarqué, quels sont les films qui ont le plus de succès chez les jeunes aujourd'hui?
Super-héros.
Qu'est-ce qui se passe dans ces films où il y a des super-héros?
Leur propre force.
Ils ont... Bah, ils vivent dans un monde où il y a des gens qui ont des forces surhumaines.
Mmh.
Des super-pouvoirs. Mmh. Et pourquoi ce monde est si attirant? Parce que quand on vit dans un monde fantasmé, hein, où il y a ces choses, c'est possible. Là, c'est rassurant. On a un moyen. Pourquoi est-ce que des gens tombent dans l'occultisme? Parce qu'ils veulent changer le monde dans lequel ils vivent, leurs circonstances. Ils veulent pratiquer la sorcellerie, la magie, l'astrologie. Pourquoi? C'est un désir de contrôler ce monde. Mais la vérité, c'est que ce monde, il n'est pas contrôlé par l'homme. Il est contrôlé par Dieu. Et tout ça, c'est un moyen d'éviter Dieu. Un moyen qui n'est pas forcément conscient, hein, mais qui revient à éviter Dieu. Je ne veux pas vivre dans ce monde. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas envie de ce monde-là, parce qu'il est moche, il est déchu. Mais il y a des vérités à saisir dans ce monde déchu, pour y vivre, et pour y vivre en paix. Donc, la première cause de bruit dans notre âme, c'est l'incrédulité. C'est parce que je ne crois pas les bonnes choses au sujet de Dieu, et je crois des mensonges au sujet de ce monde, et au sujet de Dieu. J'ai un Dieu qui est petit, qui n'est pas capable de gérer mes problèmes, qui n'est pas capable d'empêcher ce bol de se fracasser par terre. Mais non, en vérité, on a un Dieu qui est grand et qui contrôle toutes choses, qui laisse un certain nombre de choses se produire, mais il le fait pourquoi? Parce qu'il est sage. Et moi, je ne le suis pas. Avez-vous des questions? Alors on va s'arrêter là.